L'agronomie sans souci, le rendez-vous audio de Cultivar, proposé et présenté par Hélène Sauvage, rédactrice en chef, et Mathieu Lecourtier, chef de la rubrique agronomique. L'agronomie est parfois perçue comme complexe et obscure. Pourtant, elle est au cœur des solutions pour bâtir des écosystèmes durables et résilients. L'agronomie, ce n'est pas un souci, ni un défi, c'est un outil.
Pour ce rendez-vous, nous voulions aborder le sujet de la décalcification et l'acidification des surfaces. Alors Mathieu, explique-moi pourquoi tu as choisi ce sujet-là.
Alors dans un objectif de compromis entre l'activité biologique des sols et la biodisponibilité des éléments minéraux, le maintien d'un pH aux environs de 6,5 est suffisant pour la performance des cultures.
Est-ce que c'est des choses que les agriculteurs connaissent bien sur le terrain ?
Alors, globalement, c'est des notions qui sont bien connues. Et l'analyse de sol est sans doute le meilleur outil pour suivre le pH d'un sol et raisonner les amendements minéraux basiques, mieux connus sous le nom de cholage. Mais la décalcification ou l'acidification de surface semble être un sujet majeur pour les agriculteurs qui s'orientent vers l'agriculture de conservation des sols.
Donc c'est plutôt un sujet qui concerne les agriculteurs qui sont en transition vers moins de travail du sol.
Oui, et de nombreux conseillers travaillant sur l'agriculture de conservation des sols incitent les agriculteurs qui souhaitent aller vers l'agriculture de conservation à vérifier le pH et l'état calcique de leur sol. Pour certains experts, ce serait même une erreur agronomique grave de ne pas faire cette vérification et la correction éventuelle nécessaire. Ceux qui ne souhaitent plus travailler leur sol ont tout intérêt à se concentrer sur le pH de ces premiers centimètres.
D'accord, donc si je comprends bien, il faut être très vigilant sur le pH des premiers centimètres du sol.
Pour les agriculteurs qui ne veulent plus travailler leur sol, oui. L'acidification de surface est handicapante pour les premiers stades des cultures.
Les stades de jeunes.
Oui, stade plantule et les premiers stades. Naturellement, il existe un gradient de pH entre chaque horizon du sol. Mais ce qui est important, c'est que ces variations entre les différents horizons soient relativement faibles. Je te propose d'écouter Christophe Fribourg. Il est gérant de la société de conseil Fribourg Agro-Ressources et il a creusé plusieurs milliers de fosses pédologiques dans sa carrière. Il va nous expliquer les conséquences d'un gradient trop important entre les différents horizons du sol.
Ok, alors écoutons Christophe Fribourg.
Les racines, quand elles descendent, si le pH change, eh bien, il y a des arrêts de croissance racinaire qui vont se traduire sur le feuillage par des décolorations que l'on souvent on attribue à des carences, mais qui sont, en fait ne sont pas des carences. Ce qu'on appelle la terre rhizosphérique, la terre qui se trouve autour des racines, va impacter, de façon très simpliste, l'ouverture ou la fermeture de l'alimentation par les racines en solution du sol. Donc, t'imagines que t'as un pH à 7,5 et qu'on perd 3 points. Bon, c'est rare, hein, j'ai dû voir ça sur 5000 fosses, ouais, 5-6 fois, pas plus. Eh bien, les racines, elles s'arrêtent de croître. Et le système racinaire qui est concerné se ferme et va attendre que les exudats racinaires recréent un milieu favorable pour que l'alimentation en solution du sol reparte. Et ça va de 3 heures à 3 jours, voire plus. Ce qui fait qu'en fin de cycle, tu peux avoir des différences de profondeur de racines qui vont jusqu'à des fois 40, 50 centimètres. Et 50 centimètres, par exemple sur un blé ou sur un colza, tu vois ce que ça fait en fin de cycle. Année difficile, année de stress hydrique, eh ben le blé ou le colza va vite avoir des problèmes d'alimentation en solution du sol, en l'occurrence en eau. Lors d'un semis, on met une graine. Si je suis dans un horizon à tendance plus acide, avec une décalcification, la germination et la levée va être beaucoup plus difficile. Et en fait, ça va créer des levées avec des petites plantules qui sont fragiles, qui sont pas homogènes. Et tu vois, tu prends le cas d'un colza, quand le démarrage est difficile, que tu as une plante qui a 2 feuilles et l'autre qui est pas vient de sortir, enfin 2 cotylédons et l'autre qui vient de sortir, le colza aura des soucis jusqu'à la fin de son cycle.
J'ai bien compris ce qu'avait expliqué Christophe Fribourg. Mathieu, est-ce que tu peux me dire s'il y a des types de sols qui sont plus sensibles à la acidification ou à la décalcification ?
Les sols les plus concernés, ce sont les sols limoneux, notamment par le fait de la battance qu'engendre cette acidification de surface. Dès qu'il y a de l'argile, par contre, les sols sont beaucoup plus tamponnés et donc moins sensibles à ce phénomène.
Alors, est-ce qu'il y a des causes identifiées à cette problématique ou à ces problématiques, pardon ?
Alors, il faut déjà savoir que, à part les sols calcaires et de façon irrémédiable, les sols s'acidifient à des vitesses différentes et très difficiles à modéliser. Le simple fait de mettre un sol en culture implique une décalcification de surface. Pour l'expliquer, je laisse la parole à Bruno Félix Faure, responsable agronomique au laboratoire Eurofin Galice, pour nous expliquer les causes de l'acidification de surface.
Là, c'est un petit peu complexe, mais je vais quand même l'évoquer. Hein. Quand la plante, si vous voulez, absorbe du potassium, du calcium, elle excrète des ions H+ qui sont acidifiants. Hein. Lorsqu'elle absorbe des nitrates, au contraire, elle absorbe un H+ qui est basifiant. Hein. Donc, le bilan de tout ça fait que globalement, quand on exporte du grain, hein, on dit on exporte de l'alcalinité, donc on est acidifiant, et on le sera d'autant plus qu'on exporte beaucoup de cations, c'est-à-dire de la biomasse. Par exemple, entre un maïs grain et un maïs en silage, c'est le jour et la nuit. Hein. Un maïs en silage va beaucoup être plus acidifiant qu'un maïs grain. On s'aperçoit, donc, contrairement aux idées il y a 20 ans où tout était lié au calcium, en fait, que c'est plutôt, maintenant, on parle des flux d'H+, hein, des flux de protons, c'est-à-dire toutes les réactions qui vont créer d'acidité, hein, pour faire simple. Hein. Et donc, on s'aperçoit que c'est très lié à l'azote, notamment. Hein. Donc, la fuite, par exemple, donc le lessivage de l'azote, des pertes hein, donc de nitrates, hein, ont un effet acidifiant. Hein, pour ceux qui mettent soit des flux en élevage, comme des lisiers, ou bien donc des solutions azotées ou de l'urée, et qui ont de la volatilisation, c'est aussi un phénomène d'acidification. On l'imagine bien. Hein, le NH4 dans le sol qui passe sous forme de NH3, eh ben, il laisse un H+, donc c'est acidifiant. Donc l'aspect azote est très important et il faut le souligner que bon toute l'évolution hein, donc environnementale donc avec les bilans azote et notamment aussi les couverts hein, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette convergence, c'est-à-dire que lorsqu'on limite, donc on fait des bilans plus ajustés hein, en azote, que on va limiter le lessivage grâce aux cultures intermédiaires. En faisant ça hein, non seulement donc on perd moins d'azote, donc on gagne des unités, mais en même temps, on limite l'acidification, et limite, on a moins d'amendements, on va dire, calciques, basiques à apporter. Hein. Donc il y a quand même une très belle convergence, hein, et donc les deux vont de pair. Et il avait été noté que il y a plusieurs fois, il y a eu l'intervention de l'INRA avec Nicolas Sabi, qui fait toujours le point avec la BDAT, la Banque de données d'acidité de sol, de l'état, on va dire, le pH de nos sols, hein, le sol français, et on s'aperçoit que même si en fait il y a les pH sont plutôt, on se maintiennent bien, hein, alors qu'au niveau quantité d'amendement, on va dire, on en dépasserait plutôt moins, ce qui veut dire que il y a bien, on note bien ça, hein, que on gère mieux l'azote.
Mathieu, il évoque la fertilisation. Est-ce qu'il y a d'autres leviers à actionner pour limiter ces problématiques ?
Globalement, toutes les pratiques qui sont favorables à la vie biologique des sols participent à réduire l'acidification de surface. La vie biologique participe à une meilleure distribution des éléments dans le sol et à moins de pertes dans le système. Pour ceux qui labourent encore, donc, Christophe Fribourg préconise de passer à la charrue déchaumeuse, par exemple.
Alors, pourquoi la charrue déchaumeuse, elle est moins brutal que la charrue?
Globalement, au lieu de travailler à 20 cm, on travaille à 15 cm, on est moins impactant sur la vie biologique du sol. Donc, naturellement, on va plus favoriser la vie biologique du sol.
Et pour tous les autres agriculteurs, qu'est-ce qu'on préconise?
Alors, ce qui est préconisé, notamment, c'est la couverture des sols et une bonne gestion des produits organiques qui sont épandus dans les champs. Bruno Félix Faure et Christophe Fribourg ont des éléments à nous avancer sur ce sujet.
On les écoute alors.
La couverture, c'est un des piliers de, vous savez, de la conservation. Un des piliers, c'est sol toujours couvert. Donc déjà, ils sont dans un contexte où ils limitent beaucoup ce phénomène-là, hein, donc d'acidification, parce qu'il n'y a pas de lessivage. J'ai parlé azote, mais il y a aussi le soufre, hein, la perte de soufre par lessivage est acidifiant. Donc là, il le limite, hein, on va dire, une bonne gestion d'azote. Bon, si ce sont des gens, mais pas forcément. Hein, souvent, on a dit pendant des années, hein, moi j'ai entendu pendant des années, si vous voulez, que l'apport apport de, maintenant on dit de pro, hein, de des fûts en élevage, était acidifiant. C'est, en fait, ça s'avère faux, hein. L'apport régulier, que ça soit du fumier, hein, on l'a montré donc par des essais, l'apport de fumier, vous pouvez presque dire que c'est 10 unités VN par tonne. Donc, si vous voulez quelqu'un qui va mettre 10 tonnes de fumier, ça va faire 108 VN, hein. Comme, admettons qu'ils mettent 30 tonnes de fumier tous les 3 ans, ça fait, donc effectivement, ça fait 100 unités VN par an, hein. Ensemble, je vous ai dit que en gros c'était l'entretien, c'était 208 VN par an, donc c'est un demi-entretien chaulage. Oui. Donc quelqu'un qui met du fumier régulièrement, c'est un demi-entretien chaulage. Le lisier, c'est un peu moins efficace. Le lisier, on a tendance à penser que ça s'acidifie. C'est acidifiant le lisier si on fait un peu n'importe quoi, si on en apporte et sans faire attention à la volatilisation, qu'on a des pertes par volatilisation. Si on en apporte, si vous voulez, alors que c'est interdit, on va dire, juste en entrée d'hiver avec des lessivages importants, là, oui, là, on va être acidifiant. Mais si on le gère bien, c'est pas acidifiant.
Mathieu, j'aimerais bien maintenant que tu me dises deux mots sur les amendements calcomagnésiens.
Alors, Hélène, malgré tous les leviers qu'on a pu mettre en place auparavant, tous les leviers agronomiques, il faut savoir qu'il est difficile de faire sans amendements minéraux basiques. Contrairement aux idées reçues, les amendements minéraux basiques ne sont pas nécessairement synonymes de travail du sol pour les intégrer. Les inconditionnels du non-travail du sol et les ACIs peuvent donc être rassurés. Il faut toutefois ajuster la stratégie d'entretien du pH comme le présente le responsable agronomique du laboratoire Eurofin Galice.
Qu'on a écouté tout à l'heure.
Exactement.
Pour des personnes en semi-direct, il faut pas trop se prendre la tête dans les calculs complexes de volume de sol. Je leur dis, apporter régulièrement, hein, c'est-à-dire, c'est presque un chaulage. C'est un chaulage d'entretien, régulier, hein. On sait que si vous voulez, alors dans des modèles classiques, on est à de l'ordre de 200 à 250 unités valeurs neutralisantes par an, hein. Si je prends 200, hein, si on prend des carbonates, il faut doubler. Ça fait 400 unités VN. Bon, en gros, vous avez compris, c'est 400 kilos de carbonate par an on va dire, à apporter pour contrebalancer l'acidification. Si on est un petit peu, on va dire, dans le système semi-direct, avec découvert, hein, une bonne gestion de l'azote, donc on peut penser qu'on a quasiment pas de lessivage d'azote, etc. Donc, on peut abaisser ce lessivage, 150, etc. Mais donc, ça fait quand même 300 kilos de carbonate par an à apporter. Hein. Il faut être dans ce contexte. Donc, ça peut être apporté annuellement, tous les 2 ans. Ça fait 600 kilos tous les 3 ans. Je serai sur les apports fréquents, hein, fréquents à faire régulièrement, hein, de façon à maintenir toujours ce volant et qui permet d'avoir aussi en profondeur, si vous voulez, cet effet chaulage, hein, parce que les carbonates sont... Il y a eu des essais qui ont monté. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un apport en surface? Combien de temps mon carbonate remonte le pH en profondeur? Et de mémoire, c'est 5 ans. Quand on chaule avec des carbonates, la descente des carbonates en profondeur est très lente. Hein. Si on veut maintenir, si vous voulez, l'ensemble du profil à pH correct, hein, il faut chauler régulièrement. Hein. Comme ce sont les apports surface, il faut plutôt faire des doses modiques. Hein. Et aussi, alors là c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais le tenter. Hein. Je dis cibler plutôt des produits, si vous voulez, on dit à bonne solubilité, donc des produits fins. Hein. Parce que si vous mettez des produits grossiers, le carbonate, il va se dissoudre 2 mm autour, à la grosse particule, et après donc le pH va augmenter. Et ce qui est propre au carbonate, c'est qu'à ce moment-là, il se dissout plus, hein, contrairement aux produits cuits à la chaux. Hein. Quand on travaille le sol, quand on déplace ces particules dans une zone à acide, ça repart en solubilisation. Mais si on travaille pas le sol, non. Donc finalement, on aura chaulé quelques petits points, si vous voulez, par-ci par-là. Hein. Donc je leur dis, prenez des produits fins, hein, qui vont bien se solubiliser, hein, même si vous travaillez pas votre sol, hein, et faites des apports modiques réguliers pour façon à ce que on ait une descente et qu'on chaule l'ensemble du profil pour pas avoir finalement, si vous voulez, un chaulage en surface, et puis en dessous c'est acide et les racines, quand elles arrivent là, elles se cognent sur une zone acide. Si on ne fait rien, si on est acide, si vous voulez, à 25-30 cm, et ben c'est un peu la cata, parce que à part le labour, on n'a pas grand chose, vous voyez, hein. Donc c'est pour ça que je dis, soyez prudents, pensez à gérer régulièrement.
Alors Mathieu, si on devait faire une synthèse de cette émission, pour prévenir l'acidification ou la décalcification des surfaces, je retiens couverts végétaux, stratégie de fertilisation optimisée, bonne gestion de la matière organique. Et est-ce que j'oublie quelque chose?
Ouais, bien sûr, de toujours faire des analyses de sol pour vérifier que son pH est bon. Et si c'est pas le cas, d'avoir une stratégie d'entretien avec des amendements calcomagnésiens.
Je savais bien que j'avais oublié le pH. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour ce point très technique qui, je suis sûr, aura intéressé nos auditeurs. Nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Salut Mathieu.
Salut Hélène.
C'était l'Agronomie sans souci, le rendez-vous audio de Cultivar. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur le site internet cultivar.fr et abonnez-vous au magazine Cultivar. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute à la demande. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux.